Chapitre 12. La villa Nomentane. Entre la voie Nomentane qui va de Rome à l'Orient et la voie Salaria est un ravin profond au-delà duquel, sur les bords de la voie Nomentane, on voit s'étendre un terrain gracieusement onduleux. Au centre de cette terre variée s'élève un temple de forme ronde et pittoresque, près duquel se dresse une magnifique basilique dédiée à Sainte Agnès. C'est là que se trouvait la villa d'Agnès, située à environ 1,5 mille de la ville. Les deux vierges consacrées à Dieu, auxquelles une troisième compagne s'était jointe, devaient passer dans la villa d'Agnès cette journée bénie, afin de jouir à leur aise d'une joie calme et tranquille qui peut-être ne durerait pas longtemps. Nous ne décrirons pas cette habitation de campagne, nous dirons seulement que tout dans cette maison respirait la joie et le contentement. On jouissait d'une de ces journées privilégiées que l'hiver accorde seulement à Rome. Les rudes sommets des Apennins étaient saupoudrés d'une légère couche de neige, le sol n'était point durci par la gelée, l'air était transparent, le soleil resplendissait dans un ciel pur. De légers nuages d'une fumée onduleuse s'échappaient des chaumières et la nudité des vignes privées de leurs feuilles rappelait seule le mois de décembre. Chaque être vivant semblait réjoui à l'approche de la douce maîtresse du logis. Les tourterelles venaient, joyeuses, se reposer sur son épaule ou sur sa main. Les brebis sautillaient dans leur parc lorsqu'elles voyaient Agnès approcher d'elles en tenant dans ses mains des herbes vertes et tendres que les agneaux eux-mêmes venaient chercher. Mais l'animal qui subissait le plus son puissant charme était un énorme chien de garde, le vieux Molossus. Il était ordinairement enchaîné à la porte et les visiteurs accoutumés, à quelques exceptions, n'osaient pas s'approcher de lui tant il paraissait féroce. Mais quand Agnès apparaissait, le rude animal semblait transformé. Il se couchait à ses pieds, il agitait sa grosse queue et gémissait jusqu'à ce qu'elle eût ouvert sa chaîne. Alors un enfant pouvait l'approcher. Il ne quittait jamais le côté d'Agnès, il la suivait comme un agneau favori. Si elle s'asseyait, il restait couché à ses pieds, la regardant sans cesse et paraissait ravi quand la douce main d'Agnès venait caresser son énorme tête. C'était là vraiment un jour de paix. Il y avait dans l'atmosphère quelque chose de tranquille et de doux, et les trois jeunes filles parlèrent ensemble de leur bonheur du matin et de l'aurore plus belle encore dont il était le gage, lorsque, au-dessus des nuages ombrés qui charmaient leur regard ravi, elles contemplaient une beauté plus durable et plus splendide encore. Leur joie devint de la gaieté quand Syra et Agnès feignirent de reprocher à Cécilia le tour qu'elle leur avait joué le matin. Et la jeune aveugle, joyeuse comme à son ordinaire, leur répondit en riant qu'elle leur réservait une autre surprise encore lorsque la matinée radieuse se lèverait, car, ajouta-t-elle, « je ne me contenterai pas alors de venir la dernière, mais je vous précéderai toutes les deux. » L'arrivée de Fabiola mit fin à la conversation. Elle venait à la ville pour la première fois depuis son malheur, voir Agnès et la remercier de la sympathie qu'elle lui avait montrée. Elle s'avançait, mais s'arrêta subitement en apercevant l'heureux groupe qui était réuni, car lorsqu'elle contemplait les deux jeunes filles dont les yeux jouissaient de la beauté du ciel, penchée sur celle dont l'âme seule pouvait deviner sa splendeur incomparable, il lui sembla que son rêve se réalisait devant elle. Craignant de les troubler et désirant trouver Agnès seule et non dans la compagnie de l'esclave Syra et d'une pauvre aveugle, Fabiola s'éloigna avant d'avoir été remarquée et se dirigea vers un lieu plus écarté. Mais la jeune patricienne cherchait toujours pourquoi elle n'était pas heureuse et gaie comme les trois jeunes filles et quel gouffre profond continuait à la séparer d'elle. Cette journée bénie ne devait pas finir sans nuage, un tel bonheur eût rappelé celui du ciel. Un autre visiteur avait quitté Rome pour faire une visite à Agnès. Ce visiteur inattendu, c'était Fulvius. Il n'avait pas oublié l'assurance que Fabius lui avait donnée, que ses manières fascinatrices et ses bijoux brillants avaient tourné la faible tête d'Agnès. Il attendit que les premiers jours du deuil fussent écoulés, en respectant la maison où il avait reçu une si rude réception, ou plutôt dont on l'avait chassé. Il apprit que, pour la première fois, Agnès s'était rendue à sa villa suburbaine, sans ses parents ni aucun serviteur mâle, et pensa que l'occasion était bonne pour commencer sa cour. Il sortit à cheval par la porte Nomentane et fut bientôt chez Agnès. Descendu de sa monture, il dit qu'il désirait voir Agnès pour une affaire importante et, après quelques difficultés, le portier le laissa entrer en lui disant qu'il la trouverait au fond d'une longue avenue qu'il lui indiqua. Le soleil déclinait, les compagnes d'Agnès venaient de s'éloigner un peu. Elle était assise seule dans un endroit que le soleil illuminait encore et le vieux Molossus restait couché à ses pieds. Le gros chien se mit à grogner à l'approche d'un hôte qui ne semblait pas de son goût, mécontentement qu'il montrait rarement près de sa jeune maîtresse. Agnès leva les yeux et cessa un instant d'attacher ensemble les fleurs d'hiver que lui apportaient ses compagnes, puis elle posa son doigt léger sur ses lèvres, comme pour réprimer l'expression de l'aversion instinctive que le vieux Molossus laissait échapper. Fulvius s'approcha respectueusement, mais d'un air plus libre qu'à l'ordinaire, comme une personne assurée du succès de sa démarche. « Je suis venu, noble Agnès, pour vous renouveler mes hommages. Je n'aurais pu choisir un plus beau jour, car le soleil d'été semble nous revenir avec ses rayons brillants et chauds. » « La journée est belle et pour moi elle est brillante, » répondit Agnès, dont l'esprit restait rempli de souvenirs de la matinée. « Le soleil dans le passé ne m'a jamais donné une plus belle fête et il ne saurait jamais m'en donner qu'une seule plus belle dans l'avenir. » Fulvius paraissait flatté comme si le compliment lui était adressé et il répondit « Sans doute vous voulez parler du jour de vos fiançailles avec l'heureux mortel qui a conquis votre cœur. » « Mes fiançailles sont faites, » répliqua-t-elle, sans comprendre le sens de la question, « et c'est aujourd'hui que j'ai accompli cette action mémorable. » Et ce voile fleuri qui part votre tête est placé sans doute comme un signe précurseur de cette heure fortunée. Oui, c'est le souvenir que mon bien-aimé a placé sur ma tête afin que je ne reconnaisse d'autre fiancé que lui-même. Et qui est cet être heureux ? Je n'étais pas sans espoir d'avoir conquis une place dans vos pensées, peut-être dans vos affections, et je ne renonce pas encore à ce cher espoir. » Agnès semblait à peine entendre ces paroles. Elle ne ressentait ni timidité ni gêne. Son regard pur s'élevait plus haut que la terre. Innocente et sans tache, elle ne craignait pas le danger, car elle ne connaissait le mal que de nom. Sa physionomie enfantine restait joyeuse, ouverte et sans remords. Ses yeux brillants et doux regardaient Fulvius en face avec une simplicité si vraie qu'il se troublait malgré lui devant ce regard. Elle se leva ensuite, puis répliqua avec une gracieuse dignité « J'ai recueilli le lait et le miel qui s'exhalent de ses lèvres et le sang qui s'échappe de sa joue meurtrie est venu s'imprimer sur la mienne. » Fulvius commençait à penser qu'Agnès déraisonnait, quand son regard inspiré et brillant qui s'élevait vers un objet invisible pour les autres l'intimida et le subjuga. « Madame, dit-il, vous vous raillez d'un homme qui vous admire et vous aime sincèrement. Je sais de la bouche la plus autorisée, oui, un de nos amis communs qui n'est plus m'a affirmé que vous vouliez bien penser à moi et ne pas vous montrer opposé si je demandais votre main. C'est cette faveur que je viens solliciter aujourd'hui sérieusement. » Ma demande peut vous paraître un peu brusque et éloignée des formes ordinaires, mais je vous aime d'un amour ardent et sincère. « Retirez-vous de moi, nourriture de corruption !» s'écria-t-elle avec une calme majesté. « Déjà un fiancé a pris possession de mon cœur, c'est à lui que j'ai fait mes serments, c'est à lui que j'ai consacré toute mon âme. Son amour est pur, ses caresses sont chastes et ses fiancés conservent à jamais leur couronne virginale. » Fulvius, qui s'était agenouillé en terminant son discours et qui avait reçu à genoux ce refus sévère, se releva plein de dépit et de fureur d'avoir été si complètement trompé. « N'est-ce pas assez d'être rejeté, dit-il, après avoir été encouragé? Pourquoi m'insulter ainsi en me disant qu'un autre a pris possession de la place avant moi? Cet autre, c'est encore Sébastien, je le suppose. » Qui êtes-vous? S'écria derrière lui une voix indignée. Pour oser prononcer avec dédain le nom d'un homme dont l'honneur est sans tache et dont la vertu égale le courage. » Fulvius se retourna et se trouva en face de Fabiola, qui, après s'être promenée quelque temps dans le jardin, revenait, espérant trouver sa cousine seule cette fois. Elle s'était approchée à grands pas et avait entendu les derniers mots de l'entretien. Fulvius interdit restait silencieux. Fabiola, animée d'une noble indignation, continua. « Et vous, qui êtes-vous donc ? Non content de vous être introduit sans aucun droit dans la maison de ma cousine pour oser l'insulter, vous venez encore la poursuivre au fond de la retraite de sa villa ?»« Et qui êtes-vous vous-même ? Répondit Fulvius, pour agir en maîtresse dans la maison d'une autre personne. « Je suis la personne qui, la première, vous ait fait rencontrer à ma table avec ma cousine et qui ait découvert vos desseins coupables sur une enfant innocente. Je crois qu'il est de mon devoir et de mon honneur d'empêcher vos projets de s'accomplir et de protéger ma jeune parente. » Elle prit Agnès par la main et s'éloigna avec elle. Agnès donna une petite tape au chien fidèle pour qu'il se contentât de grogner. Une tape venue d'une si douce main lui sembla une paresse. Fulvius en partant grommela entre ses dents. « Romaine altière, tu regretteras amèrement ce jour et cette heure. Tu apprendras et tu sentiras comment se venge un homme de l'Asie. »